histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés. Bonjour à toutes et à tous, Philippe Corbière, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, votre propos a pour thème la pêche au XVIIIe siècle dans le Tarn. Au cours de vos recherches dans les archives judiciaires, vous avez trouvé le récit d'empoisonnement d'une rivière et vous allez donc nous raconter cette histoire.
Oui, bon, c'est un type d'affaire qui est assez courant autrefois, donc les délits de pêche. Donc là, c'est deux petites affaires donc, similaires qui ont lieu au même endroit et qui sont assez caractéristiques. Donc ça se passe assez près de la Révolution. Hein, donc la première affaire, c'est en 1779. Ça se passe à Paulin, donc enfin, Poligny actuellement, où il y a plusieurs rivières qui sont toujours poissonneuses d'ailleurs. Et donc c'est une rivière qui s'appelle l'Oulas, c'est celle qui passe au pied du château de Paulin. Une rivière assez connue par les pêcheurs encore maintenant. Et donc un dimanche matin, 7 mars 1779, plusieurs habitants qui sont levés tôt surprennent auprès de la rivière trois personnes qui ont l'air assez affairées, qui coupent des rondins de bois et qui les jettent dans l'eau. Et en fait, pour récupérer du poisson mort qui surnage sur la rivière. Alors, ces différentes personnes s'approchent, les trois individus prennent la fuite, et on trouve sur le bord de la rivière une besace avec dedans des truites et un pot qui contient des substances inconnues, visiblement de la chaux. Et ils réussissent à en attraper un qui avoue que la veille, ils ont mis de la chaux et différents produits dans l'eau pour tuer le poisson. Donc les habitants qu'ils ont surpris sont un peu choqués, leur font des remontrances à la personne qu'ils ont pu attraper, qui est le valet de deux propriétaires. Et d'ailleurs, le lendemain, le garde-chasse du seigneur attrape à la foire de Théiette un des contrevenants et lui fait la morale. On remarquera qu'il n'est pas question d'amende, hein, il ne lui fait pas de...
Juste,
il lui fait
juste
la morale.
Oui.
L'autre qui lui dit, mais je ne le ferai plus, c'est la dernière fois, bon. Mais enfin, là, l'affaire fait du bruit parce que les gens en parlent, et ça vient bien sûr aux oreilles de la justice, qui bien sûr provoque une enquête, et ordonne même que les accusés soient remis à disposition de la justice. Bon, on ne sait pas la suite de l'affaire, en général c'est une amende...
Et est-ce que cette personne ou ces personnes ont avoué dans quelle intention elles avaient empoisonné?
C'était pour récupérer du poisson pour le vendre. Alors il y a une autre affaire aussi qui a lieu au même endroit, 4 ans plus tard. Et là c'est toujours pareil, c'est un dimanche matin, il ne fait pas encore jour, ça c'est très important. Et deux paysans du coin sont surpris en train de pêcher des truites. Et là aussi on trouve au bord de la rivière un grand pot qui contient de la chaux. Ça, c'est vraiment très très courant. Alors, ils sont conduits. Alors là, l'affaire est plus rapide. Elle est traitée au bout de quelques jours. Alors que la première affaire, il a fallu un mois pour que la justice se réveille. C'est-à-dire, il a fallu un mois pendant lequel les gens ont parlé, jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de la justice. Parce que, bien entendu, il devait y avoir d'autres cas, mais en général, les gens n'y prêtaient pas attention. Mais là, c'est la gravité de l'empoisonnement de la rivière qui a choqué le plus de gens. Et c'est une technique qui était souvent employée.
Alors donc, quand on achetait du poisson, on pouvait acheter du poisson qui avait été empoisonné à la chaux.
Oui, tout à fait. Enfin, bon,
est-ce qu'il y avait une différence avec le poisson qui avait été pêché naturellement?
Certainement pas. Bon, là, c'était surtout ce qui choquait, c'était de pêcher en quantité et pas pour ses besoins personnels. Et surtout, du poisson empoisonné, on trouve encore à notre époque des gens qui vendent des marchandises avariées. Enfin, c'est malheureusement encore courant.
Donc ce type d'histoire était courant à l'époque, vous nous dites.
Oui,
vous en avez trouvé des traces
beaucoup,
dans les archives.
Mais certainement, une minorité d'affaires ressurgissent. Et ça, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait une dénonciation, il faut qu'il y ait la rumeur publique. Puis bon, c'est vrai que ce n'était pas considéré forcément comme quelque chose de très grave. Là, ce qu'il y avait, c'était quand même la pêche au gros. Et dans les deux affaires dont j'ai parlé, le procureur est très remonté parce qu'il dit que malgré les interdictions, pratiquement tous les jours, il y a des gens qui pêchent dans les rivières avec des filets, ce qui indique bien que c'est pour pêcher en gros, et qui ils sont tellement avides qu'ils jettent dans la rivière de la chaux et autres drogues propres à détruire le poisson, au point que la rivière commence à se dépeupler. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui est reproché, c'est surtout le fait de dépeupler l'espèce, enfin bon, de détruire l'espèce, et surtout de pêcher en gros. C'est-à-dire que ce n'est plus pour leur consommation personnelle, ce qui était toléré, mais pour revendre, pour en faire un profit.
Ce qui montre bien que les rivières étaient très poissonneuses à l'époque.
Alors, tout à fait, oui. Oui, il y avait des poissons, même sur le Tarn, il y avait beaucoup de poissons. Maintenant, il y en a certainement beaucoup moins.
Alors, donc, puisque les rivières étaient très poissonneuses, le droit de pêche était quand même réglementé à cette époque-là.
Alors, le droit de pêche, en théorie, appartient au seigneur du lieu. Mais c'est très, très variable. Les interdictions, ça varie vraiment d'un village à un autre, d'une seigneurie à une autre, suivant que ce sont des petits cours d'eau ou ce sont des grosses rivières navigables.
Et justement, alors donc, ce sont les seigneurs qui signalent donc des interdictions. Mais pour quelles raisons alors ? Qu'est-ce qu'il y a comme interdiction ?
Ah ben d'abord parce que c'est fait partie considéré de quelque chose qui est réservé comme la chasse aux nobles. Mais bon, c'est très caractéristique de l'ancien régime, c'est un laisser-faire. Hein. Souvent par rapport aux lois, on laisse faire pendant quelques temps, puis d'un coup, on réveille la réglementation, on se met à réprimer, à faire deux, trois grands coups, et après ça retombe.
Hein. Parce qu'il doit y avoir certainement beaucoup d'abus à ce moment-là.
C'est voilà, pour ça, ce qu'il y a surtout, on craignait la dépopulation, mais puis le manque, c'est une richesse quand même. Donc il y avait des gens qui se procuraient une richesse gratuite, alors que ça appartenait quand même au seigneur. Les rivières appartiennent au seigneur, le poisson donc aussi.
Et donc, le paysan, lui, n'a pas le droit de pêcher, ou s'il pêche, il doit une redevance au seigneur ?
Alors là, c'est assez compliqué. En fait, il y a dans certaines communautés, la pêche était en fait libre. Dans d'autres, le seigneur, surtout dans les rivières navigables, comme par exemple sur Gaillac ou toute la rivière du Tarn, il y avait des pêcheurs professionnels qui étaient autorisés par le seigneur à pêcher, en grande quantité, avec filet et tout le matériel, mais il devait une redevance au seigneur, une redevance annuelle. C'est-à-dire qu'il payait d'abord une certaine quantité de poissons, puis une somme d'argent, bon, mais c'était légal. Maintenant, il y a aussi les communautés dont le seigneur était le roi. Donc là, en général, on laissait faire les gens pêcher, mais toujours pareil pour la consommation personnelle.
Et vous dites des professionnels, c'est-à-dire que eux, par contre, vendaient leurs poissons.
Oui, tout à fait.
Salvasuna, tykken levinoin utens. Ioi menna petti tuuna, sedemaa farapeltens. Salvasuna, tykken levinoin utens. Ioi menna petti tuuna, sedemaa farapeltens. Yno neidins, yno kumbos, yllä ruuto de brasak. Rencontrerai la salvasuna, che dal sabo di Gimbra. Tutto fiero alla luna, se pensè na volupè. Revertavo in estelo, a chi tomba do de sé. Salvasuna, salvasuna, tu che devi noi lutens. Io e me ma petti tu, non se de ma farà bel tens. Salvasuna, salvasuna, tu che devi noi lutens. Io e me ma petti tu, non se de ma farà bel tens. Tu so me messari dello, la ganteria del brasan. E all'arme mai neri, cabio luz, venus alas. La porteri es paurivo, arustalemos parens. E sen durmi a tutto nuso, al pedu, fior desarmens. Salvasuna, salvasuna, tu che levi noi lutens. Io e me ma petituna, se de ma farà bel tens. Salvasuna, salvasuna, tu che levi noi lutens. Io e me ma petituna, se de ma farà bel tens. Lumati a punto d'albo, ero indus de febbien. E valieri un oraubo, e il pare de suliens. Meselore mura mura, muria pare su son con. E all'aro come occhi s'amusa, sur di ez un pensador. Salvasuna, salvasuna, tu che devi noi.
Philippe Corbière, donc la pêche au XVIIIe siècle était réglementée et comme chaque fois qu'il y a une réglementation, évidemment, il y a des gens qui passent outre et les délits de pêche étaient fréquents. Alors, est-ce qu'ils étaient punis d'amendes ?
Oui, alors bon, pour les délits simples, bon, effectivement, il y a une amende, généralement, bon, une somme d'argent, oui, qui était quand même beaucoup plus basse que les amendes pour la chasse, par exemple. C'était quand même... En plus, bon, il n'y avait pas de matériel à confisquer. Bon, quand on chasse une arme, par exemple, bon, c'est une chose aggravante. Mais néanmoins, pour les délits de pêche, il y avait des cas aggravants. Parce qu'on ne pouvait en aucun cas pêcher la nuit, ni le dimanche et les jours fériés. Et on voit que les deux cas qu'on a évoqués tout à l'heure, ça s'est passé un dimanche matin avant le lever du soleil. En plus, le fait avec des filets aussi. Tout ce qui impliquait une pêche en grosse quantité. Ça, c'est les circonstances beaucoup plus graves. Ça pouvait effectivement amener jusqu'à bon, un séjour en prison. Mais enfin, bon, c'était assez rare quand même. C'est surtout des amendes pécuniaires.
Alors, est-ce que la pêche interdite le dimanche et les jours fériés, est-ce que ça avait un rapport avec la religion ?
Non, je pense qu'il fallait trouver pour empêcher de pêcher en permanence. Je parle dans les endroits où on pouvait plus ou moins pêcher.
Oui.
Mais c'est vrai que c'était toléré, il y avait des grandes périodes de laisser faire.
Et la nuit, donc, aussi, c'était peut-être considéré peut-être comme du braconnage à ce moment-là.
De toute façon, tout ce qui était nocturne était grave. Et on l'a vu dans notre dernière émission, tout ce qui se passe la nuit, ça aggrave le cas des auteurs de délits.
Alors, donc, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui pêchaient illégalement ?
Oh ben, certainement tout le monde, plus ou moins, parce que ça permettait de se faire, pour le repas, d'avoir quelque chose d'un peu différent. Il y avait beaucoup de truites à l'époque, on parle souvent de truites, mais oui, et puis des gens de toutes les classes sociales, je veux dire. C'est pour ça aussi que, bon, parfois, les juges n'étaient pas forcément trop
enclins. Oui, voilà. Oui. Mais bon, il y avait quand même une pêche qui était légale.
Oui, mais c'est suivant les endroits. Ça
c'est l'ancien régime. Légal, est-ce que pour vous, légal, ça veut dire libre ?
Oui, autorisé.
Autorisé.
Mais ça pouvait dépendre d'une commune à une autre.
Suivant
le seigneur, suivant les coutumes locales. Il y a des endroits comme par exemple à la Guépy, où la pêche était totalement libre. Sur l'Aveyron qui passe là-bas. C'était tout à fait libre.
Par la volonté du seigneur, là.
C'était la charte du Moyen-Âge qu'il avait fixée au XIVe siècle. Bah, tout dépend s'il y avait un texte qui l'autorisait ou pas. Mais c'est vrai que la règle générale, officiellement, c'était seuls les seigneurs avaient le droit. Mais parfois, ils pouvaient déléguer un peu ce droit. Alors que pour la chasse, ils ne pouvaient pas le faire. Il y a eu des seigneurs qui ont été poursuivis pour avoir délégué le droit de chasse à certains de leurs roturiers. Si
vous voulez. Ah oui, très bien. Et est-ce que vous avez justement des exemples de poursuites envers des pêcheurs qui avaient donc enfreint les lois, les interdictions ? Vous avez un exemple ? Oui.
Oh, ben là, il y a beaucoup d'exemples. Bon, il y a ceux-là, par exemple, ces deux. Mais aussi, bon, parfois, des gens qui sont fait prendre, mais à chaque fois en grande quantité. Il y a très peu de dossiers où on voit le simple, je dirais, pêcheur du dimanche, comme maintenant, qui...
Oui, oui.
C'est surtout...
Tout ce qui était répréhensible, voilà. C'était de, justement...
Là, bon, parce que... Par exemple,
que la rivière soit... privé de poisson, quoi,
voilà,
en quelque sorte.
Hein. Bon, par exemple, dans le cas de cet empoisonnement de poisson, à chaque fois, ce sont des dénonciations de paysans, hein, qui sont... Parce que la rivière est considérée comme un bien commun, où chacun peut aller prélever un petit peu de poisson, mais là, si on se met à détruire toute la faune, les gens ne sont plus d'accord, et les gens ne sont pas solidaires. Parfois, quand il y a un paysan se fait juger, il y a une solidarité de la communauté, mais là non, la solidarité ne joue pas, parce que d'abord on empoisonne une rivière dans laquelle ben, on va faire la lessive, dans laquelle on peut éventuellement se baigner, une eau que l'on peut boire.
Que l'on peut consommer aussi,
je suppose. C'est une eau sur laquelle on peut faire des prélèvements pour arroser. Donc là, les gens ne suivent plus. Là, si on empoisonne leur cadre de vie, ce n'est pas tellement un réflexe, je dirais, écologique, mais c'est bon, c'est le bon sens.
Et alors, théoriquement, le droit de pêche n'était pas autorisé pour les roturiers. Alors, qu'est-ce qu'un roturier ?
C'est quelqu'un qui n'est pas noble.
C'est quelqu'un qui n'est pas noble.
Alors, je vous donne un exemple. C'est dans un traité des droits seigneuriaux fait par un certain Renaudon, qui était avocat à Bourges, je ne sais plus, dans cette région-là, qui justifie l'interdiction du droit de pêche en disant « L'attrait d'une occupation si agréable aurait entraîné le peuple, les ouvriers et les artisans dans l'oisiveté, source trop fréquente de la licence, du libertinage et de la débauche. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les traités de droit, c'est que la pêche mène au libertinage.
Ah bon ?
Ça, c'est une...
La chasse, non ?
Non, la pêche, parce que c'est considéré comme un moyen facile de gagner son pain ou éventuellement sa vie, et qu'il ne faut pas laisser ça aux ouvriers, aux paysans, parce que sinon ils négligeraient leurs travaux.
Leurs travaux.
Voilà. Et ça revient souvent, il n'est pas le seul, et j'ai trouvé plusieurs textes reprenant à peu près les mêmes termes.
Mamma mi prendi slaburo e mi fai di pesce in sol come puta dal gagnol. Mi dislavo te l'umore, veiras che te vo fa cura in gulo mea che mi as.
L'autobus di perro pa.
Alle scolo, hai che lucu te fa un colo, arustalla, arustalla, hai che lucu te fa mal. Alle scolo, hai che lucu te fa un colo, arustalla, arustalla, hai che lucu te fa mal. Al capino bravurado, su vende mari da strado, a chi le scolo paurò, qui il cero murisse in cor. Sul pigro mestre tessuno, de sabus che tu un truno, per te invita tante po'.
Ma che il sabì, forti mo.
Alle scolo, hai che lucu te fa un colo, arustalla, arustalla. Se vesias a pelusino, non scuzzi su de mangiare, tutto scauso che hai man pas. De muletto far la vico, de patano, sinte secco, su ti senta che fa scur.
Come tre dir come il tambur.
Ari scolo, hai che il tutto frantollo, allo stalla, hai che il tutto te fa mal. Ari scolo, hai che il tutto frantollo, allo stalla, hai che il tutto te fa mal. E canta rivoluse, e ha in caro luce vero, si osa re di te crevan, mescal tene in studiat. Da tu sabe pan per pan, per fai un bun tecnician, lumen se cadere pas, e lume presa tapau. Ari scolo, hai che il tutto frantollo, allo stalla,
vous êtes sur les ondes de Radio Albigès et vous écoutez l'émission Histoire locale. Philippe Corbière est mon invité aujourd'hui. Alors Philippe Corbière, vous nous racontez ce qu'était la pêche au XVIIIe siècle avec sa réglementation, ses interdictions. Alors est-ce que déjà au XVIIIe siècle, l'aspect protection de l'environnement venait à l'idée des paysans, des seigneurs ?
Non, là, dans cette affaire, ce qu'on craint, c'est la disparition du poisson, parce qu'on ne pourrait plus en manger, ou même à la limite, en revendre.
C'était la préoccupation en première,
voilà.
Là.
Parce que je pense que certaines des personnes choquées par la disparition du poisson, peut-être aussi de leur côté, de temps en temps, pêchent en grosse quantité et les revendent. Donc, peut-être ça qui les intéresse. Bon, le poisson n'était pas vendu très cher non plus. C'était pas.
C'était une denrée quand même assez courante.
Oui. Ça se vendait, parce qu'on a des estimations parfois dans des procès de prise de poissons, et on estime, il y a une estimation qui est faite de leur valeur, en gros, 3 truites, ça se vendait une livre, à peu près. Hein.
Et en comparaison avec, par exemple, du pain
Disons que le salaire d'un ouvrier agricole était peut-être disons, à cette époque-là, 15 sols, c'est-à-dire 3/4 de livre. Bon, c'est une somme importante, mais enfin bon... C'est pas non plus une richesse. Enfin, c'est moins cher que la viande.
C'est moins cher que la viande quand même, ouais. À cette époque-là, oui. Alors, est-ce que la notion, justement, d'environnement, de cadre de vie, existait à cette époque-là ?
Juste, je reviens un peu en arrière.
Oui, oui pardon, excusez-moi.
N'oubliez pas quand même que dans la société paysanne d'autrefois, il y avait donc, on suivait les périodes de jeûne de l'Église de manière très stricte. Donc, n'oubliez pas qu'il y a les 40 jours du carême. Il y a d'autres, il y a tous les vendredis. Donc,
on oublie un peu cet aspect-là aujourd'hui.
Toutes
oui.
Les périodes sans viande. Donc, le poisson, quand même, était nécessaire et on ne tenait pas à ce qu'il disparaisse. Parce que là, c'était.
Et oui.
Il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier.
Oui. Oui, alors donc je reviens à ma question. Est-ce que la notion d'environnement, de cadre de vie existait justement ?
Non, c'était quelque chose qui commençait à apparaître, surtout dans les villes. C'est l'époque où on commence à faire des belles avenues, dans les boulevards. C'est l'époque où on détruit les remparts, on remplace par des boulevards, par des promenades. Alors dans les villes, bon, comme à Toulouse, même à Albi, il y a des endroits pour les jeux. Bon, partout, il y a le jeu de mailles, qui était le jeu populaire à l'époque. Donc on fait des espaces de promenades et de loisirs. On essaye d'embellir... avec des arbres, bon, ça, mais dans les villes, ça passe très mal dans les villages. On voit par exemple, justement, dans la même région de Polignette, plusieurs, lors de 1789, plusieurs cahiers de doléances insistent là-dessus, sur le fait que Ils regrettent toutes les dépenses qui sont faites dans les villes pour les promenades, planter des arbres et tout, alors que eux n'ont encore des chemins qui ne sont pas carrossables, et estiment que ce n'est pas normal, que ce sont des dépenses superflues.
En quelque sorte, ils n'avaient pas tout à fait tort.
Voilà, enfin, je veux dire, l'idée d'avoir un cadre de vie agréable n'est pas encore leur idée, d'autant plus qu'ils avaient une vie très difficile, et c'est peut-être autre chose à penser. Mais on trouve quand même des cas, bon, maintenant dans des bourgs plus ruraux, par exemple à Monestier, une affaire qui a eu lieu vers 1770 à peu près, c'est l'époque où, la grande époque, où on fait des routes justement, à la campagne, hein, où l'administration provinciale aménage, agrandit, ou parfois même crée des routes pour relier les principaux bourgs entre eux, pas encore les villages, hein, mais les principaux bourgs, et c'est l'époque où, à Monestier, on refait une route pour aller d'Albi à Cordes, en passant par Monestier. Et cette route doit passer sur ce qui est actuellement le foirail, là où il y a la fontaine du Griffoul, pour ceux qui connaissent Monestier. Et ça nécessite d'abattre toute une série d'arbres qui avaient été plantés là. Et la municipalité de Monestier proteste en disant que c'est un lieu de promenade qui est très prisé des habitants, qu'on ne peut pas le détruire parce que c'est très joli, ça n'est pas possible, il faut que la route soit déviée.
Parce que la décision avait été prise au niveau départemental.
Voilà, enfin, au départemental, disons au niveau du diocèse d'Albi.
Du diocèse Sylvie. Oui.
Et donc ça a été un bras de fer entre les consuls de Monestier et l'administration provinciale. Bon, bras de fer qui a été perdu parce qu'on a estimé que la route primait sur toute autre considération. Mais bon, c'est une des premières manifestations, on pourrait dire, de défense du cadre de vie au sens moderne du terme. Maintenant, pour la petite histoire, après, il y a eu un autre conflit à ce propos, parce que la commune de Monestier a voulu récupérer le bois qui avait été abattu, et que l'administration provinciale voulait embarquer, parce que le bois était aussi une richesse.
Une denrée quand même assez indispensable. Voilà. Hein. Et est-ce que justement ils ont réussi à récupérer ce bois?
Oui, ils l'ont réussi,
mais
ça a été...
Vous avez trouvé trace de cette
polémique? Ça a été un combat assez... Alors d'ailleurs, toujours pour rester sur Monestier, c'est quand même la même année où a eu lieu cette affaire, c'est l'année où justement les habitants de Monestier ont souhaité conserver la mise au tombeau, qui était à Combefa, qui devait être détruite comme le château, et ont considéré qu'ils voulaient bien la récupérer. Donc là aussi, on a un sentiment d'intérêt pour un objet artistique et de vouloir le conserver. C'est quand même la même période, c'est le même endroit.
Des manifestations de protection de l'environnement, finalement, du cadre de vie et en même temps du patrimoine.
Oui. Oui, parce qu'il y avait un certain sentiment. Enfin, je pense que il faut bien se dire une chose, c'est que les gens de cette époque avaient plus souvent l'occasion que nous de voir, par exemple, des peintures. Il y avait des peintures dans toutes les églises. Actuellement, nous voyons des peintures dans des livres, à la télévision, mais très peu de gens voient des peintures, je dirais, à moins d'un mètre. Et ces gens étaient habitués quand même à voir des statues. Donc il y avait quand même un certain sentiment qu'il y avait une valeur dans des objets, je dirais, non utilitaires.
Oui, tout à fait.
Ouais. C'est le début. Bien sûr, à la campagne, ça a été peut-être beaucoup plus long, parce que, comme je dis, les gens avaient d'autres soucis.
Mais ils avaient quand même le sentiment qu'ils avaient un patrimoine à protéger.
Oui, oui. Oui.
Ben écoutez, merci beaucoup, Philippe Corbière, pour ce propos très intéressant. Nous avons pu écouter deux extraits de musique de
La Talbero.
Merci. Alors, cette émission est terminée. Merci à Maï à la technique. Et au revoir et à bientôt sur les ondes de Radio Albigès.
Au revoir.
Histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés.